que nous apportent les travaux de la recherche IFE au niveau des connaissances sur les pratiques enseignantes. Vous connaissez, je pense, cette grille, cette typologie qu'on a utilisée, typologie de tâches, hein, qu'on a utilisée pour observer les classes. Je pense que c'est un bon outil de départ pour les formations, notamment pour travailler avec les enseignants sur, pour réfléchir avec eux sur ce qu'ils font. Mais surtout, vous ne mettez pas que la liste des tâches, mettez à côté les exemples. On a essayé de prendre des exemples prototypiques, bien représentatifs de ce qu'on voyait dans les classes, mais en même temps avec du recul, je pense que là aussi il y a un travail à faire et que ce serait beaucoup plus intéressant de ne pas reprendre la grille telle quelle, mais de la repenser pour la formation. Alors là, je lance un appel à candidature, hein, parce que au sein de l'équipe, on avait déjà beaucoup à faire, on a 5 projets déjà, donc on ne peut pas tout faire. Mais je crois qu'il y a vraiment un travail là. Je vous explique, par exemple, là où il y a des choses à repenser. Par exemple, si on est sur écrire sous la dictée, quand on observe les pratiques effectives, on voit que les enseignants, ils travaillent principalement en dictée sur la syllabe et sur le mot. C'est-à-dire que ce sont des dictées de syllabes, dictées de mots, c'est-à-dire qu'on est, c'est bien expliqué dans la conférence de Roland, on est sur une activité, hein, où les élèves finalement réencodent des unités qu'ils ont déjà travaillées. C'est ça. Alors, il y a d'autres formes de dictées, mais c'est la tâche dominante. Ce serait intéressant pour eux, par exemple, de retravailler aussi sur, mais si on fait des dictées de phrases, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument faire des dictées de phrases, ce n'est pas ça. Mais la réflexion, c'est si je mets en place une situation de dictée de phrases, et nous, on sait par les données de la recherche que c'est très peu pratiqué, quelles occasions d'apprendre supplémentaires je donne à mes élèves ? Parce que quand on est sur une dictée de phrases, potentiellement, on va travailler autre chose. On peut travailler des accords, on peut travailler la segmentation en mots, on peut travailler sur la majuscule, sur la ponctuation, vous voyez. Donc on va donner d'autres occasions d'apprentissage. Mais comme je sais que ce n'est pas très courant, ça veut dire que dans mes exemples prototypiques, je dois garder ça vraiment à l'œil, hein, et veiller à ce que la réflexion aille aussi dans ce sens. Pareil, produire en encodant soi-même, avec petit commentaire, les élèves choisissent. Avec du recul, je me dis qu'il faudrait retravailler là sur nos exemples prototypiques. Pourquoi ? Parce que regarder, écrire une devinette, écrire une lettre, préparer une affiche, on est principalement sur de l'écriture de texte et sur ce que certains pourraient appeler des projets d'écriture. Pas toujours, mais ça peut être ça. Or, je pense que pour les enseignants, c'est important de ne pas conforter une représentation de quelque chose de très complexe à mettre en œuvre. Donc peut-être qu'il faudrait, hein, remonter l'exemple, compléter des mots en écrivant sans modèle la syllabe manquante. C'est de la production d'écrit. Et peut-être aussi, je vais pousser plus loin le raisonnement, qu'il faudrait supprimer les élèves choisissent. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que dans les situations de classe, c'est rarement les élèves qui choisissent, hein. Où vous allez les mettre, il y a une illustration où vous allez essayer qu'ils écrivent une phrase par rapport à l'illustration, vous allez collectivement arrêter 2 phrases et ils vont choisir entre ces 2 phrases. Mais on n'est pas toujours sur des productions d'écrit où les élèves choisissent ce qu'ils encodent. Par contre, quand on est en production d'écrit, on peut à nouveau penser et réfléchir aux occasions d'apprendre que cela génère chez les élèves. Et on sait que quand on est sur de la production d'écrit, hein, on est face à une complexité beaucoup plus grande. Quand on a notre élève là qui ne sait pas encore encoder et qui doit écrire, je prends même l'écriture d'un mot, même pas d'une phrase, comment il va faire cet élève-là, hein, hein, comment il va s'y prendre et comment l'enseignant va l'accompagner. On ne sera pas sur une simple situation, je dis simple, il faut mettre des guillemets de dictée, où on va rechercher en mémoire quelque chose qu'on a déjà travaillé. Il faut réfléchir à d'autres choses. Comment je peux fonctionner, hein? Est-ce que je vais découper en syllabes? Est-ce que je vais discriminer les sons? Est-ce que je vais fonctionner par analogie? Est-ce que je vais penser aux outils disponibles dans la classe pour m'aider? Vous voyez? Donc on est sur d'autres dimensions de l'écriture qui sont aussi très importantes à travailler. Et c'est ça pour moi, hein, là il y a un angle vraiment important à envisager en formation. Dernière rubrique, je vous montre ce qu'il faudrait faire, et j'espère hein, vous enrôler dans ce travail. Je reviens sur définir, planifier, organiser la tâche d'écriture. Là aussi, si c'était à refaire, je modifierais l'intitulé. Parce que pour moi, ce serait plus pertinent, au lieu d'utiliser ces étiquettes-là, de parler de préparation de l'écriture. Pourquoi ? Parce que planification, ça renvoie quand même, dans les travaux des cognitivistes, à quelque chose de très précis, à des stratégies d'anticipation du processus rédactionnel, où, grâce à une mémoire de travail très importante, le scripteur va anticiper son texte, repenser au but de la situation d'écriture, rechercher en mémoire à long terme des informations, les réorganiser, penser à la manière dont il peut faire, donc, hein, aux procédures, aux stratégies nécessaires pour écrire. On n'est pas toujours là-dessus quand on parle de préparation. Préparation, quand on parle de préparation, on est sur un acte pédagogique, c'est-à-dire, avant de prendre le stylo, qu'est-ce que l'élève peut faire pour préparer son écriture. En tant qu'enseignant, comment je peux préparer et donc aider l'élève à écrire? Je vous donne un exemple. Un exemple, c'est beaucoup plus parlant. Que je prends à Pascal Bachelet, qui est ici. Un exemple de travail sur les essais d'écriture dans une classe de moyen-grand. Ici, ça concerne les grands. Donc ça, c'est bien l'échange oral de l'enseignant avec les élèves avant que les élèves ne commencent à prendre, moi je dis prendre parce que vraiment une fois qu'ils ont le crayon à papier ou le stylo, pour certains c'est parti. Donc avant de prendre le stylo ou le crayon à papier, regardez ce qui se passe dans la classe. Alors, je dois me tourner parce que là c'est trop petit sur mon écran. Comment on pourrait écrire Pascal? Pas, peu. Et l'enseignante, Pascal, peut. Alors, à. Et pourquoi? Ça te fait penser à quoi? Bon, vous reconnaissez, procédure par analogie. Hein? Papa, je suis d'accord. Papa, deux syllabes. Et Pascal. Elle a combien de syllabes? Deux. Alors, la première, ce serait quoi? Pas. Non. Écoute bien, Pascal. La première, qu'est-ce que c'est? Passe. Très bien. Comme mot de passe. Vous voyez, hein? Pop, tout ce qui se passe dans la tête de l'élève, là. Hein? Très bien. Alors, il faut écrire la première syllabe. C'est passe. Tu prends un feutre, tu essayes. Je te rappelle les règles. Attends, avant de commencer, on rappelle les règles. On ne peut pas se tromper. Ça ne sert à rien de regarder sur le copain, puisqu'il peut mettre ce qu'il veut. Le but du jeu, c'est de bien faire chanter les lettres dans ta tête avec ta bouche. Et tu écris comme tu penses qu'il faut écrire, d'accord? On ne peut pas se tromper. On essaye. Le principe, c'est que quand on essaye, on ne se trompe pas. On essaye, on travaille. Vous voyez, hein? Imaginez la différence entre une classe où l'enseignant fait ça, hein, et la classe d'à côté où les élèves sont lancés dans l'écriture sans ce travail de préparation. Vous mesurez l'écart. Hein, donc là, on est vraiment sur un enjeu très important, d'autant plus important qu'on voit que pour les élèves en grande difficulté, hein, les classes les plus efficaces sont celles où le temps de préparation est très important. Mais en même temps, quand on regarde les pratiques effectives, il n'y a quasiment pas de préparation dans les classes. Hein, donc là, on se dit qu'il y a vraiment un angle mort à travailler avec les élèves. Et quand on essaie de synthétiser finalement ce qu'on sait sur les pratiques enseignantes, bien d'abord c'est d'observer que la plupart des enseignants font écrire leurs élèves de façon régulière et importante tout au long de l'année. Là aussi, on entend parfois des discours comme de l'ordre « les élèves n'écrivent plus ». Non, ce n'est pas vrai, les élèves écrivent. Mais l'écart entre les classes qui écrivent peu et celles qui écrivent beaucoup est très marqué, c'est ça que nous apprend la recherche. Et quand les élèves écrivent, en moyenne, qu'est-ce qu'ils font? Ça aussi, c'est très intéressant. Vous voyez, principalement de la copie avec modèle, 44 minutes. puis de la production en encodant soi-même, puis de la dictée par le maître, puis de la calligraphie, de la production en combinant des lettres, des unités pardon, pré-imprimées, de la révision, de la préparation, de la dictée à l'adulte et de la copie après disparition du modèle. Là, j'attire votre attention qu'il y a à nouveau deux manières fréquentes de présenter les données. Là, volontairement, j'ai tout redécoupé. Pourquoi ? Parce que dans certaines présentations des données de la recherche, on va vous regrouper tout ce qui relève de la copie. Mais du coup, on ne va pas voir que la copie différée n'est pratiquement pas considérée. Si, pareil, vous regroupez tout ce qui relève de la production d'écrit, on ne va pas voir que la dictée à l'adulte n'est quasiment pas utilisée dans les classes. Vous voyez ? Donc là, je pense que pour interroger les pratiques, c'est important de déplier ces différentes tâches. Toujours par rapport à ce qu'on sait sur les pratiques effectives des enseignants, je vous rappelle que les enseignants font un peu plus de tâches de décodage que d'encodage, et que pour quasiment toutes les tâches que je vous ai listées, l'écart entre les classes qui en font beaucoup et celles qui en font peu est énorme. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais celui-ci. Mais regardez, pour par exemple la planification, enfin la préparation et la révision, le retour sur le texte, ben, on voit que plus d'un tiers des classes n'en font pas. Voilà. Et sur toute l'année, hein, pas sur une semaine, hein, n'en font pas. Ce qui, moi, me questionne beaucoup. Hein. Toujours dans cette espèce de résumé, si on regarde au fil de l'année les évolutions, on voit que le temps passé à calligraphier diminue nettement au fil de l'année, que le temps passé à copier, à écrire sous la dictée, à préparer, réviser son écrit est à peu près stable quand il est existant, on est d'accord, hein ? En début d'année, le temps passé à décoder est nettement supérieur au temps d'encodage, mais les deux s'équilibrent peu à peu. Mais quand je vous dis ça, il ne faut pas oublier, ça c'est le travail de Jérôme Rioux qui le montre bien, qu'un tiers des classes ne produisent pas en encodant soi-même en début d'année. Et que dans ce bloc décodage-encodage, quand on vous dit que peu à peu l'encodage rejoint le décodage au fil de l'année, eh bien c'est parce qu'il y a une tâche qui augmente peu à peu, c'est la production en encodant soi-même. Les autres sont stables. Hop, je passe son graphique. Autre résultat important, qu'est-ce qu'on écrit en CP ? Eh bien, on écrit principalement des mots et des phrases. Le mot, c'est l'unité la plus travaillée et on la trouve en copie, en dictée et en production. Quand je dis production, c'est production. Moi, j'aime pas, je vous avoue que j'ai quelques réticences par rapport à production autonome parce que en autonomie, dans les classes, que fait le maître ? Donc moi, je préfère parler de production écrite, de production d'écrit, d'essai d'écriture, par exemple, que de production en autonomie. Bon, ben ça, après, je vous renvoie à vos préférences et à vos questionnements. Hein, mais deuxième unité la plus travaillée, la phrase. Et on la trouve non pas en dictée, mais en copie et en production d'écrit. La lettre, elle est principalement rattachée à la calligraphie. Ce n'est pas vraiment une surprise, parce que quand on est sur l'unité de lettre, on est bien sur la dimension motrice, hein, qui est détachée de la dimension linguistique. La syllabe, on la trouve avant tout en dictée. Donc là, quand on encode des syllabes, on est bien sur le travail, le contrôle des connaissances grapho-phonologiques. De nouveau, là, il n'y a pas de grande surprise. Et la phrase et le texte, comme je vous le disais, sont principalement travaillés en copie et en production. En ce qui concerne le texte, quand on regarde les différentes classes, on le trouve avant tout dans la deuxième partie de l'année, mais de façon minoritaire. C'est-à-dire que pour la production de texte, il y a 7 classes qui en font la première semaine d'observation, 12 classes sur 130 et quelques, hein, 12 classes la deuxième semaine d'observation, et 45 classes la troisième semaine d'observation.